10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour les amis, alors les amis auditeurs et auditrices, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez, on est bien matinal et c'est 10h, 11h, nouvel horaire, habituellement on est de 19h à 20h, mais sachez-le que durant la période du ramadan, eh bien on bascule, Philippe prend le contrôle le soir, vous le savez, il vous donne rendez-vous avec la cuisine, avec l'imam, avec les recettes, avec l'histoire, bref, tout ça une plongée durant la période du ramadan et nous sommes là les informer. Alors évidemment, on commente, on analyse et on décrypte l'actualité. Ce matin, notre invité, il s'agit, vous savez, d'un franco-libanais. Il est pianiste, il est compositeur émérite, il est un homme d'affaires aussi. Alors on va lui poser la question parce qu'il a plusieurs casquettes. Je me demande à quel moment il consacre du temps pour sa vie personnelle. c'est la question que je me pose moi personnellement et je lui poserai tout à l'heure. Il est tout le temps en permanence, évidemment, constamment en train de bouger. Eh bien on en parlera, c'est notre invité aujourd'hui, puisqu'il vient nous annoncer aujourd'hui, notamment il nous parlait du concerto, le concert pour la paix, quand on sait, vous le savez, que notamment une région plus particulière dans le monde, hein, où là il sévit, eh bien un massacre, oui, clochette, ça mérite quand même une clochette, il s'agit du conflit israélo-palestine et on lui posera la question et on lui demandera son avis tout à l'heure. Ensuite après, nous parlerons avec les débatteurs influenceurs Philippe Bouriaki, qui lui est le conseiller régional, mais un autre élu de Villejuif, Guillaume Dessouy, qui viendront confronter leur point de vue à la fois sur les trois sujets qui ont retenu notre attention. On reviendra sur l'Ukraine avec notamment, vous savez, hein, c'est les Russes qui commencent à tacler Emmanuel Macron avec son déplacement prévu en Ukraine prochainement et lui recommande de prendre plusieurs paires de caleçons. Que faut-il comprendre ? Clochette. Ça, effectivement, ça m'a interpellé. Les JO de Paris 2024 et le racisme bat son plein. Visée par des attaques racistes, eh bien, la chanteuse Aya Nakamura reçoit de nombreux messages racistes. On en parlera tout à l'heure. Pourquoi tout ça ? Alors que les JO, normalement, c'est le melting pot, c'est le brassage, c'est tout ça. Pourquoi faire autant d'histoires ? Ça mérite une clochette aussi, tiens. Consternation, violence, tromperie, l'église et les collectifs de soignants s'insurgent contre notre projet de loi sur l'aide à mourir d'Emmanuel Macron. Ça tacle fort et il prend des coups. Clochette. Voilà tous les sujets sur lesquels on reviendra. Et puis vous êtes prioritaires, les amis auditeurs. 01 53 48 3000, vous nous appelez, vous passez quand vous voulez. Vous le savez, vous êtes prioritaires, vous nous livrez votre point de vue. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression, vous le savez.
Les informés. L'interview.
Omar Harfouch, quel plaisir de vous recevoir. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va tout d'abord ?
Super bien.
Qu'est-ce qui vous fait sourire ?
Eh bien, je suis content d'être là et j'ai apprécié votre bref sur l'actualité.
Ah oui, ah oui,
sur
le sommaire.
La Russie et
ah
la
oui,
France,
effectivement, oui, effectivement. Ah, on est comme ça, nous.
La clochette, c'était sympa.
On est comme ça, nous. Omar Harfouch, vous êtes pianiste, compositeur, homme d'affaires, vous êtes un homme engagé sur les questions de société. Vous êtes aussi, hein, évidemment, à renommée, engagé aussi, vous venez de faire l'acquisition du fameux magazine Entrevue. Quand on dit Entrevue, on pense à Thierry Ardisson. C'est drôle. Vous allez nous dire tout à l'heure pourquoi vous avez fait l'acquisition d'Entrevue aussi. Vous nous parlerez de votre stratégie, de la toile médiatique que vous voulez tisser. Omar Harfouch, tout d'abord. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui lorsque vous pensez évidemment à cette ambiance? On parlait de racisme tout à l'heure. On parle de cette France, on parle de ce monde. Franchement, quand vous vous réveillez le matin, à quoi vous pensez? Qu'est-ce qui vous tracasse, Omar Harfouch?
Eh bien, le matin, quand je me réveille, je me dis, jusqu'ici, tout va bien.
Ça, c'est la haine, ça.
Voilà, donc, c'est la première chose que je me dis. C'est vrai qu'il y a une ambiance un petit peu pas très gaie en France, mais c'est le cas dans le reste du monde. Moi, je voyage beaucoup. Le seul endroit là où il n'y a pas de mauvaise ambiance, c'est à Dubaï.
C'est à Dubaï. Voilà, à Dubaï, donc, tout va bien.
Tout va bien.
Il y a pas donc, il faut tous aller à Dubaï.
Voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment l'endroit là où vous oubliez tous les soucis. Mais à part ça... L'Europe traverse une période sombre.
Oui.
Les gens sont perdus. Il n'y a plus de repères. Les valeurs européennes ne sont plus ce qu'on nous a fait croire il y a pas mal de temps. Donc les gens, ils ont perdu vraiment tout repère. Il n'y a pas une autorité morale. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de limites. Donc les gens sont perdus. Et moi, personnellement, comme Nietzsche le disait, j'ai ma propre morale, j'ai ma propre éthique. Et donc je ne me sens pas perdu. Je vois un peu ce que les uns et les autres ils font et j'ai quand même de l'expérience. J'ai grandi, j'ai eu mon enfance dans un pays en guerre civile au Liban.
Et parce que vous êtes originaire du Liban, effectivement.
Voilà, j'étais en Ukraine, d'abord en Union soviétique, j'ai vu un énorme, immense pays qui s'est disloqué. Et ensuite, j'ai vécu et survécu à deux révolutions et un putsch en Ukraine. Et donc là, aujourd'hui, ce qui se passe en Europe, pour moi, c'est rien du tout.
C'est rien du tout. Parlons-en justement. On va parler, si vous le voulez bien, cette interview qui va aller très très vite en trois temps. Trois temps où on va vous découvrir d'abord, puisque vous êtes un homme, évidemment, qui avait fait l'acquisition de plein de médias. Notamment, vous avez parlé de l'Ukraine. Vous êtes aussi, vous avez fait fortune dans les médias. Après, on parlera de votre statut de pianiste, compositeur. Et puis ensuite, après, l'acquisition de médias. Omar Fouch, aujourd'hui, comment vous avez bâti votre fortune aujourd'hui? Comment elle s'est faite? Et comment aujourd'hui, le Omar Fouch, aujourd'hui, s'est retrouvé évidemment faire l'acquisition à la fois des médias en Ukraine, l'acquisition, vous avez fait référence en Europe. Comment ça s'est passé?
Alors en Ukraine, je n'avais pas fait d'acquisition. J'ai créé la première radio FM, à savoir que quand j'ai lancé Supernova avec mon frère Walid, radio FM en Ukraine, la bande FM était réservée à l'armée soviétique et aux services secrets. Donc il n'y avait même pas l'idée de la bande FM. Donc j'ai créé la première radio dans l'histoire de l'Ukraine moderne. Et ensuite, on s'est développé, on a fait des émissions de télévision, on a travaillé sur le câble. En fait, moi, qui voyageait souvent entre Paris et Kiev, je voyais ce qui se passait avant les autres, ce qui se passait au niveau de l'audiovisuel en Europe et en France, et je faisais la même chose en Ukraine, donc ce qui a fait que, évidemment, j'ai fait une petite fortune, parce que je ne suis pas milliardaire, mais depuis quand même que j'ai 24 ans, j'ai une petite fortune qui me permet, que je n'ai pas dilapidé, et donc ce qui me permet toujours d'investir juste et toujours dans la sphère des médias et le consulting. Je ne suis pas un homme d'affaires classique, export-import et tout ça. Je n'ai jamais fait de l'export-import. Je ne sais même pas faire ça. Je sais que travailler dans le sphère des relations publiques, le lobbying et les médias.
Parlons-en justement. Alors aujourd'hui, parce que je veux vite qu'on parle de ce concert pour la paix, le concerto pour la paix. Alors Omar Fouch, vous êtes d'origine libanaise, vous êtes pianiste, compositeur, émérite. C'est vrai. En dehors de votre casquette d'homme d'affaires, on reviendra sur ce statut-là. Mais vous avez joué en première mondiale, la toute nouvelle création Concerto pour la paix. C'était il y a quelques jours à peine. Ça se passait à Béziers. Comment ça s'est passé justement? C'était quoi, l'orchestre symphonique de la ville?
C'est l'orchestre symphonique de la ville qui s'appelle l'orchestre Méditerranée Béziers. C'est Mathieu Bonin qui est chef d'orchestre à Béziers, qui est d'ailleurs de la région parisienne mais qui a déménagé pour vivre là-bas, pour créer l'orchestre et pour enseigner là-bas. On s'est écrit avant, il a aimé ma musique, il m'a dit ben alors je vais vous programmer. Il m'a programmé en première partie et deuxième partie, il y avait Félix Mendelssohn, le concerto pour violon et orchestre, qui était joué par un incroyable violoniste, Michael Siegel. Et donc c'était tout à fait comme la relation comme au 18e, 19e siècle, quand les compositeurs correspondaient avec des chefs d'orchestre qui les programmaient. En fait, ça s'est passé de cette manière-là. Et puis, mon concerto donc, pour la paix, qui est, c'est un concerto pour piano, orchestre et violon, piano, violon et orchestre. Donc, c'est Anne Gravoin qui a joué, c'est une violoniste connue mondialement, qui a joué la partition du violon. Donc, elle avait aussi des passages en tant que soliste. Ça s'est passé au théâtre municipal à Béziers, une création mondiale, parce que il y a toujours pour chaque compositeur la première fois quand ils jouent, que ce soit une sonate ou un opéra ou un concerto ou une symphonie, il y a toujours la première fois, c'est la création mondiale, on l'appelle comme ça, et elle est toujours jouée dans un seul endroit mais pour le monde entier.
Quand on dit Omar Fouch, justement le concerto pour la paix, à qui on pense justement?
Alors d'abord il y a le concerto, donc la forme musicale, mais oui. Pour la paix parce que c'est pour la paix universelle. Ce n'est pas, parce que tout à l'heure, quand vous m'avez présenté, vous avez dit concerto pour la paix, vous avez parlé d'une seule région dans le monde et un seul massacre dans le monde. Alors, moi, je veux pas de récupération. Je fais de la musique pour la paix universelle. Parce qu'il n'y a pas de paix pour un camp et la guerre pour un autre camp. La paix, elle doit être et elle est pour le monde entier, pour toutes les populations, pour les enfants du monde entier. Et ça, c'est ce que je fais. J'écris cette musique pour que tout le monde réfléchit au moins le temps de 17 minutes de mon concerto à la paix pour qu'il ressente la paix au fond de lui et ne pense après mon concerto qu'à ça.
Quand vous dites ressentir la paix au fond de soi, Omar Fouch, justement, on pense à une région particulière. Je le disais tout à l'heure, c'est le conflit israélo-palestinien. Vous pensez à ce qui se passe en ce moment, évidemment, dans la situation alarmante qui se déroule en ce moment à Gaza et à Rafah?
Je ne suis pas d'accord que la guerre et les tensions sont uniquement dans cette région-là, parce qu'il y a aussi la guerre en Ukraine, il y a Nagorno-Karabakh, Karabakh, il y a plusieurs guerres aussi au Soudan, il y en a aussi,
Congo aussi.
Au Congo, il y a plusieurs régions, à Haïti depuis quand même une semaine.
Haïti, oui.
Voilà, donc il y a des tensions, il y a des guerres. Depuis que l'homme existe, il y a des guerres. Donc ça fait partie de l'ADN humain. Et nous, les civilisés, c'est-à-dire nous tous, les hommes et les femmes, essayons depuis quand même des décennies de surpasser la haine et les envies de faire la guerre. Et donc, moi, je fais partie de ceux qui ont souffert à cause de la guerre, parce que j'ai grandi dans une guerre civile. Je connaissais que la guerre civile quand j'étais petit, jusqu'au moment où je gagne un concours de piano et je pars faire mes études à Moscou.
Piano, vous l'avez dit. Piano, je vous interromps deux secondes. Ça, c'est vous. Ouais. Il paraît que vous êtes un véritable virtuose. Un pianiste virtuose, vraiment, à renommée internationale. J'aimerais qu'on écoute cet extrait, les amis auditeurs. Écoutez bien, tendez bien l'oreille. Je vous avoue, c'est magnifique. Écoutez. Génial. Moi, j'adore. Non, franchement, bravo. Moi, je kiffe. Vraiment, comme disent les jeunes, je suis conquis. Vous êtes vraiment incroyable, évidemment, dans la manière, dans le registre. Comment vous avez fait votre place dans ce monde très fermé, Omar Harfouch ?
Alors, juste deux mots sur cette musique. C'est ma fantaisie orientale. C'est moi qui l'ai composée et c'est moi qui suis au piano là. Et c'est un enregistrement qui a été fait au Sénat. Il n'y a jamais eu de concert de musique au Sénat. Et là, exceptionnellement, l'archer, à l'époque, il y a deux ans, après l'explosion de Beyrouth, a ouvert sa résidence pour un concert pour Beyrouth. Et donc, j'ai joué Beyrouth et joué la fantaisie orientale. Et c'est cette musique, d'ailleurs, qui me fait voyager dans le monde entier, parce qu'à chaque fois je la joue, ça plaît à quelqu'un ou à un ambassadeur qui m'invite dans son pays, et ainsi de suite. Alors, le monde de la musique classique est fermé, c'est vrai, mais ce n'est pas qu'il y a une élite qui le ferme aux autres. C'est tout simplement, il y a très peu de gens qui s'intéressent à cette forme d'art, et ils sont pas les pianistes ne sont pas très nombreux, et la majorité des pianistes, quand ils deviennent pianistes, ils jouent la musique des autres. Bach, Chopin, Prokofiev, Rachmaninov, Debussy, Ravel. Or, moi, je joue ma propre musique. Et donc, quand les gens viennent à mes concerts, ils adhèrent très vite parce qu'ils ont le compositeur en face. Et puis, il y a une sorte de communion avec le public à chaque fois. Donc, c'est ce qui fait un petit peu la différence. Donc, pour moi, vous avez dit que j'étais virtuose, ça, selon vous, mais selon aussi le niveau. Parce qu'un pianiste concertiste, il ne va pas me trouver virtuose, il va trouver que je joue bien au piano. Donc, moi, là, c'est juste pour vous dire que je joue bien au piano. Je ne suis pas le virtuose par rapport à pour le 1% dont vous parlez. Mais évidemment que ce monde fermé, comme moi, d'origine libanaise, parce que vous l'avez rappelé déjà quatre fois depuis que je suis devant vous, oui, c'est vrai que tout ce que j'ai fait dans ma vie était fermé pour quelqu'un qui vient du Liban, qui s'appelle Omar Harfouch. Et donc, que ce soit la mode, plus que 20 ans que je suis aussi dans la mode, il n'y a pas beaucoup de Omar dans la mode, et moi quand même j'ai excellé.
Milieu fermé aussi.
Milieu fermé. La musique classique, c'est pareil. Il y a dans l'orchestre souvent des gens qui viennent de différentes origines, que ce soit d'origine syrienne, et beaucoup de Syriens d'ailleurs, des musiciens incroyables, mais il y a très peu de compositeurs qui sont confirmés, qui sont invités à jouer sur les scènes du monde entier. Et aussi le cercle des médias, il est extrêmement fermé, encore plus fermé que la mode et la musique classique, parce que on ne laisse pas les gens avoir une licence pour avoir une télévision ou une radio, ou même avoir par exemple un magazine ou un quotidien.
On en parlera tout à l'heure, effectivement, voilà. Omar Harfouch, vous avez des signatures comme ça sur le plan international lorsque vous jouez, vous composez, à qui vous pensez? Est-ce qu'il y a des signatures qui vous viennent à l'esprit, qui vous inspirent? Quel est celui qui vous inspire le plus?
Moi, c'est ma ville natale, Tripoli, elle est mon unique inspiration. J'en ai pas d'autres. Les mélodies viennent de ressentis que j'ai, des souvenirs que j'ai de cette petite magnifique ville. Et c'est vraiment vraiment ma source d'inspiration. Évidemment, beaucoup de compositeurs ils vont dire oui, on a une histoire d'amour et tout ça, mais moi, ma vie sentimentale est stable depuis très longtemps. Je n'ai pas de difficulté avec ça, je n'ai pas de souffrance à ce niveau-là. Avec mes quatre filles, j'ai une magnifique relation. Donc, ma source d'inspiration, c'est mes origines et surtout le quartier où j'ai grandi à Tripoli.
On va marquer juste une courte pause. Il nous restera encore juste un petit chapitre à parler avec vous. 01 53 48 3000, si vous les souhaitez évidemment nous interpeller, vous êtes les bienvenus. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Les informés, c'est également avec, là en seconde partie tout à l'heure, Philippe Nadjiboyaki, mais également Guillaume Dessouy. Nous sommes avec notre invité, Omar Harfouche, pianiste, virtuose justement, compositeur, homme d'affaires, et nous continuons cette petite interview, grande interview j'ai envie de dire même d'ailleurs. Juste pendant la pause, alors il y a quelque chose dont évidemment vous m'avez souligné, qui est hyper important, c'est ce fameux concert que vous allez accorder au Vatican.
Oui,
vous nous rapprochez de mots, c'est le concerto pour la paix toujours.
Oui, c'est toujours, en fait c'est une tournée mondiale. J'ai fait déjà plusieurs concerts. J'ai joué à la Commission européenne à Bruxelles, en présence des commissaires européens. J'ai joué donc à Béziers, ma première mondiale de concerto pour piano orchestre pour la paix. Et je joue bientôt au Vatican. On est en train de régler pour les dates, mais la proposition que j'ai eue encore ce matin, c'est pour la fête de l'Ascension, dans une église quand même incroyable. C'est l'église là où il y a encore un morceau de la croix sur laquelle Jésus a été crucifié. Et donc, ça sera pour le 9 mai. Mais j'ai aussi donc je tourne un peu partout et je termine cette tournée à l'ONU en septembre prochain pour la Journée mondiale de la paix.
Vous vous rendez compte, est-ce que vous avez le sentiment d'endosser justement l'habit d'un véritable symbole quand on s'appelle Omar Harfouche, quand on va au Vatican, à l'ONU? Est-ce que vous sentez incarné d'un lourd évidemment poids symbolique?
Je pense que c'est un devoir de faire ce que je suis en train de faire, étant d'origine musulmane et ayant le prénom Omar, parce que actuellement il faut des gens comme nous pour transmettre un autre message qui est la paix, mais aussi le vivre ensemble et l'ouverture au peuple du monde entier. Donc moi, je l'incarne par mon éducation. Donc j'étais au Liban, j'ai été élevé par les frères de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, ayant origine, je suis d'origine musulmane, mes parents sont musulmans, et j'ai grandi dans un pays athée qui est l'Union soviétique, et je suis laïque rien que par ma résidence française depuis maintenant 30 ans. Donc il y a tout ça en moi, en plus je suis compositeur, j'ai de la notoriété, j'essaye de mettre tout ça, disons, à disposition pour moi, pour mon orchestre, mais aussi pour ceux qui ont besoin en ce moment d'écouter un autre discours, le contraire du discours de la haine. Parce qu'on n'entend que ça, la haine.
Oui, vous avez raison,
et
effectivement.
Vraiment, c'est la facilité, la haine, alors que la paix, c'est un cheminement qui est très complexe, très difficile.
Là, pour le coup, effectivement, je ne dirais pas le contraire. Militer pour la paix, c'est un devoir, comme vous le dites, et effectivement une nécessité. Omar Harfouche, est-ce que vous avez le sentiment d'endosser justement l'habit de l'exemplarité auprès de cette jeunesse, auprès des quartiers populaires, auprès de ces franco-maghrébins, franco-arabes? Est-ce que vous avez le sentiment de porter quelque chose, un message?
Moi, je ne me propose pas en tant qu'exemple, parce que je suis loin d'être un exemple. Tout simplement, j'essaie de montrer une autre voie, peut-être une réussite, parce que quand même, j'ai réussi de rien du tout, et en faisant des choses bien, toujours dans la légalité totale, et avec une ouverture, j'ai pris plein de coups, et j'ai toujours survécu, j'ai toujours été debout. Donc c'est peut-être sur ça, oui, je peux être un exemple, mais peut-être pas sur tout ce que j'aime et tout ce que je fais. Moi, je suis très très ouvert d'esprit à toutes les religions. Les gens ne sont pas tous comme ça. Je suis pour le droit des homosexuels au Liban. Je ne suis pas homosexuel, mais je défends le droit des homosexuels au Liban. Oui. Ça ne plaît pas aux Libanais.
Je suis pour voilà. En opposition farouche, effectivement.
Aussi les droits de la femme libanaise, ne serait-ce que pour avoir le droit de donner la nationalité à ses propres enfants. Elle n'a pas le droit, la Libanaise, et pourtant elle est libre, mais elle n'a pas le droit de donner la nationalité à ses propres enfants. Ça aussi, ça cause des problèmes au Liban, parce qu'ils ne veulent pas un changement démographique et tout ça. Donc, je ne peux pas être un exemple pour tout le monde.
Et vous êtes heurté, effectivement, à quelque chose de farouche.
Oui, mais j'ai toujours été heurté à ça, et j'ai maintenant, je ne peux vivre que quand il y a un défi.
Dites-moi, Omar Harfouche, alors évidemment, vous avez parlé de votre période de la mode, hein. Vous avez parlé aussi de cette grosse période avec votre frère Walid en Ukraine, aujourd'hui pianiste, compositeur, et maintenant aujourd'hui l'homme d'affaires, cet homme d'affaires aujourd'hui qui a fait l'acquisition d'un magazine hyper connu qui était incarné par celui de Thierry Ardisson. Cette entrevue. Alors, comment ça s'est passé justement? Pourquoi entrevue?
Alors, tout simplement.
Vous voulez mettre un pied dans les médias?
Moi, j'ai un pied dans les médias, mais en Ukraine, pas en France. Et là, vu la situation de guerre en Ukraine, on ne peut plus travailler. Donc, j'essaye de sortir de là-bas, de travailler ailleurs. J'ai sorti, par exemple, une de mes chaînes de télévision ukrainienne pour la placer à Dubaï. Et puis, par hasard, j'ai croisé Jérôme Coulon, qui est aujourd'hui le rédacteur en chef, mais était propriétaire. Dans une, il a fait une chronique. J'étais invité à Radio J. Et il faisait une chronique. Il m'a dit qu'il était propriétaire. Et puis, on a négocié pendant 3-4 mois l'achat, et j'ai acheté la totalité des actions, et évidemment il est resté rédacteur en chef. Il est formidable, Jérôme, vraiment c'est un homme exceptionnel, et ça a marché.
Ça a matché tout de suite.
Ça a matché et ça a marché. Puisque aujourd'hui, on est au quatrième numéro. Le dernier, il s'est vendu dès la première semaine.
Ce qui est quand même... Il paraît que vous êtes en rupture tout le temps, en permanence.
Pas tout
vous
de suite.
Vous êtes un homme de succès alors. Donc, vous faites l'acquisition d'entrevues et tout de suite, ça fonctionne. C'est quoi votre recette alors?
C'est le troisième numéro. La recette, c'est d'abord donner les bonnes informations, toujours les vraies informations, et être sûr que les autres n'ont pas la même info et les mêmes sources que vous.
Vous voulez rivaliser avec qui?
Avec Paris Match.
Paris Match.
Voilà.
Donc c'est en direct avec Paris Match.
Voilà. Oui, parce
donc, Entrevue va devenir plus un magazine de société.
Il est actuellement... En fait, je suis situé actuellement entre Closer et Paris Match, et non pas par la vente, parce que là, il me dépasse largement, mais par le contenu. Les spécialistes comprendront ce que je suis en train de dire. C'est tout simplement Closer, c'est que des infos insolites et des people et tout ça. Match, c'est plus actualité, aussi politique, mais sociétale. Et ben moi, je suis plus vers le côté Paris Match que Closer, c'est sur ça.
Alors, comme Omar Harfouch ne s'arrête jamais, hein, vous avez fait l'acquisition d'entrevues, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est votre vision, quelle est votre stratégie à terme, c'est-à-dire à court-moyen terme, dans le milieu des médias? Vous avez dit qu'effectivement, il y a un déficit dans ce domaine-là. Vous, Omar Harfouch, comment vous voyez justement dans le paysage audiovisuel?
Alors déjà, moi, j'ai senti qu'il y avait un créneau qui était disponible, c'est la neutralité. Parce que les groupes de médias en France appartiennent soit à des oligarques, les milliardaires, soit à des groupes politiques. Donc soit ils sont de droite ou de gauche, extrême droite ou extrême gauche, soit ils appartiennent à des oligarques qui sont richissimes. Et donc, Entrevue, il est neutre. Il appartient à Omar Harfouch, et moi, je n'ai aucune appartenance ni politique, religieuse, ni rien d'autre. Et donc, il y a ça, et ça manquait. Par exemple, là, maintenant, je défends ce qui s'est passé dans le numéro actuel en vente à CNews, parce que je considère que les attaques qui ont été faites contre le groupe qui appartient donc à CNews et à C8 et tout ça, à Bolloré, et donc je considère que c'est contre la liberté de l'expression. Donc, en tant qu'indépendant, je peux m'exprimer sur ça sans être taxé d'être de leur côté ou de côté droite ou gauche. Et donc, ça, cette neutralité... Pour moi, elle est très importante et elle n'existe plus pratiquement en France parce que la majorité des gens sont dans l'extrême.
Alors, je m'adresse aussi à l'homme d'affaires. Est-ce que vous avez envie aussi de faire l'acquisition d'un média télé, d'un média radio, d'un média, d'un autre média?
Évidemment, si la stratégie que j'ai mis en place pour Entrevue marche, surtout le business plan, c'est-à-dire le modèle économique, pour le moment, ça marche. Et si je vois un bon résultat d'ici un an, il n'est pas exclu que j'investis ce que j'ai gagné dans Entrevue dans un autre média. C'est même très probable, et je suis en train de réfléchir à d'autres possibilités. Je suis ouvert à toutes les possibilités, mais il faut que je reste à 100% indépendant, quoi qu'il arrive. Je n'aurai pas de partenaire, je ne rentrerai pas comme actionnaire dans un groupe ou avec d'autres. Je préfère toujours rester seul. Je vous donne juste l'exemple concret. Dans Entrevue, je n'ai pas de rédaction. Et les journalistes ne savent pas les uns les autres qu'est-ce qui va être publié. Même quand j'achète leur sujet, ils ne savent pas s'il va être publié ou pas. Je suis le seul, avec le rédacteur en chef, à savoir quelle sera la couverture et quel sujet il sera diffusé dans le magazine. Et ça, c'est une indépendance aujourd'hui qui n'existe nulle part ailleurs, et c'est peut-être ça qui va nous différer des autres.
Et vous y êtes très attaché, on l'aura compris. On arrive au terme de cette interview, et merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui, à qui vous inspirez peut-être certaines choses, ou vous avez envie de nous livrer un message? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui pour clore cette interview?
Le message que j'ai envie de dire, c'est faire comme moi, c'est faire un travail intérieur pour se débarrasser de la haine qu'on a en nous. Chacun de nous il a une haine contre quelque chose ou contre quelqu'un, sans comprendre pourquoi. Et il faut vraiment, pour aller dans un monde meilleur, il faut qu'on commence par nous-mêmes, et à chercher déjà cette haine, à travailler et à comprendre pourquoi on a cette haine. Une fois on essaie de chercher à comprendre, on peut s'en débarrasser. Une fois on s'en débarrasse, on devient un homme et une femme libre, tout à fait comme moi.
Omar Afouche, pianiste, compositeur, homme d'affaires évidemment, et encore plein d'idées en tête pour aller conquérir le monde, si j'ai bien compris. Bon courage pour le concert pour la paix. Hein.
Merci.
On est de tout cas avec vous. Au Vatican, c'est un vrai symbole ça. Hein. Bravo à vous. Dans une poignée de minutes, tiens, je vais accueillir nos amis Guillaume Dessouy, bonjour. Dans le micro, comment ça va tirer le micro vers vous? Vous connaissez la radio quand même. Arrêtez. Bon, bonjour Philippe Nadjiboyaki. On marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Et les informés, c'est avec Philippe Nadjiboyaki, Guillaume Dessouy, l'un et l'autre, évidemment, c'est des élus. Guillaume Dessouy, il est élu sur la ville de Villejuif, mais également le conseiller régional Philippe Nadjiboyaki. Que s'est-il passé hier chez Morandini Live où tout le monde parle de vous, c'est news, vous. Ouais. Que s'est-il passé où vous êtes écroulé en larmes?
Il y a Mario qui a témoigné, vous savez, Emmanuel Macron veut. Une loi sur la fin de vie pour accompagner celles et ceux qui sont en situation incurable et qui souffrent au quotidien, avec leur famille d'ailleurs, pour les accompagner dans la dignité à partir, définitivement. Alors, c'est pas du suicide assisté, loin de là. Et donc, quand Mario a raconté son histoire, où son père lui a demandé de le débrancher, pas de faire l'injection, mais en tout cas de débrancher l'appareil, ça m'a rappelé, moi, mon histoire personnelle avec ma mère qui était hospitalisée et qui était en phase terminale de cancer. Puisqu'elle avait eu un cancer, il y a eu une rémission, et puis après, en fin de compte, il y a eu une rechute et ça s'est développé de partout, donc c'était impossible et il n'y avait rien à faire. Moi, j'étais à l'autre bout de la France, mon frère cadet m'appelle, me dit, écoute, il faut que tu viennes parce que maman va partir. Et je vais pas partir, aller à l'hôpital en cancer, ça va être un peu compliqué. Il fait, non, elle va partir définitivement. Donc j'ai passé les 10 heures les plus longues de ma vie pour pouvoir rentrer. Et sur tout le chemin, je sais que c'était son souhait de partir dans la plus grande dignité. Et elle m'avait dit, étant un petit peu plus jeune, si un jour je suis pas bien, je veux que ça soit toi qui m'aide à partir, parce que personne ne le fera. Et je sais que tu empêcheras les autres enfin d'empêcher qui que ce soit de le faire, parce que par rapport à mon expérience et mon aptitude à m'exprimer de façon compréhensible pour ceux qui ont un problème quelconque. Donc moi, quand je suis arrivé, je suis rentré dans cette chambre, elle a demandé à tout le monde de sortir, et ça a été les minutes les plus effroyables de ma vie, parce que j'aurais respecté les volontés de ma mère, mais c'est la personne que j'ai du mal à dire le plus aimé, etc. C'est un pilier, comme tous les enfants, je pense, qui peuvent comprendre mon message. C'est un de mes deux piliers avec mon père, et te dire, répondre à la dernière volonté de ta mère et en même temps lui ôter la vie, être celui qui a ôté la vie, enfin c'est un dilemme dingue, et ça a été l'émotion m'a submergé de cette scène.
Et on comprend effectivement.
Et je remercie le médecin qui l'a pas aidé à partir, mais il lui a donné une dose de sédatif tellement fort qui lui a permis de partir dans le calme le plus profond.
Alors, consternation, violence, tromperie, l'Église et les collectifs de soignants s'insurgent contre le projet de loi sur justement l'aide à mourir d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on peut dire, Guillaume Dessouy? Là, on en parle justement. Qu'est-ce qu'on peut dire, Guillaume Dessouy?
Moi, j'entends beaucoup s'exprimer des personnes qui sont bien intentionnées, qui parlent de leur foi et qui parlent de culture de vie. J'ai envie de dire que la culture de vie, aujourd'hui, elle est beaucoup plus inclusive, beaucoup moins dogmatique, et qu'il faut entendre les réalités, et la science, c'est la science. Ils se sont exprimés sur la question de l'avortement, ils s'expriment maintenant sur la question de la fin de vie, et ils mettent pour ça un argument qui serait censé tout supplanter, qui est la providence, la divine providence. On peut pas résoudre des problèmes sociétaux de cette façon-là au 21e siècle. La culture de la vie, c'est une culture beaucoup plus complexe, comme le disait ton invité précédent, monsieur Omar Archouf. Il faut remettre de la paix dans tous ces enjeux.
Il faut remettre de la paix. Qu'est-ce que vous dites, vous, concernant l'aide à mourir, Philippe Nadji Boye, qui est l'élu surtout que vous êtes?
Oui, alors j'entends tout à fait et je respecte la foi et la croyance de mes concitoyens et que certains seraient heurtés. Mais je leur demande surtout de respecter le choix de la personne qui demande à partir. Alors, je voudrais qu'on modifie ce mot. L'aide à mourir, c'est quelque chose d'ultra violent. L'aide à partir dans la dignité. J'ai ce même choix que je voudrais pas que mes enfants aient à le faire contre leur gré, mais que des professionnels dont l'éthique est respectée. Si un jour, vous savez, moi, je me suis toujours relevé des difficultés et des choses terribles dans lesquelles j'ai vécu. C'est pas pour faire un concours de la pleurniche ni quoi que ce soit, mais quoi qu'il arrive, je veux mourir comme ma mère, debout, vaillant, et je ne veux pas souffrir. Si c'est incurable et qu'il n'y a pas d'autre, qu'il peut pas y avoir de miracle scientifique ou de miracle divin, parce que je pense que c'était Stomy Boxy qui disait je prie Dieu quand je suis dans la merde, il le sait, le RMS dedans. Je crois qu'il va nous laisser dedans pendant un bon moment parce qu'on a fait n'importe quoi avec la planète et le paradis qu'il nous a offert. Donc si cela devait m'arriver, je voudrais qu'on respecte ma volonté et qu'on m'aide à partir si je suis pas dans la capacité de pouvoir le faire moi-même.
Autre sujet, vous savez, c'est celui qui est visé par une artiste qui est visée par des attaques racistes. C'est Aya Nakamura. Vous connaissez quand même?
Oui.
Oui.
Pouki.
Oui, jamais qui c'est. Bah, peut-être que Faudil va la retrouver pour vous diffuser à l'extrait si vous savez pas qui c'est.
Je sais qui c'est.
Les JO 2024, ça commence déjà à jaser. Franchement, est-ce qu'on avait besoin de ça, Guillaume Dessouy?
Mais c'est l'artiste.
Vous avez vu là quand même tout ce que vous, je sais pas, vous voulez que je vous lise ce qu'elle a reçu?
Non, mais c'est la même chose.
Franchement, oui, franchement.
C'est la même chose pour la Miss France.
La honte.
On est sur des phénomènes de réseaux sociaux.
Mais on est dans une campagne de haine. Vous rendez compte, c'est pas un phénomène là. C'est la haine sur une campagne de haine sur les réseaux sociaux, Guillaume Dessouy.
Oui.
J'ai pas envie de vous lire les messages.
Moi, j'ai envie de réfléchir un peu plus.
Bah, allons-y.
Et j'ai envie de dire si on sort des personnalités, Aya Nakamura, c'est la plus grosse vendeuse de disques de France. Donc, elle a toute sa légitimité. Mais si on sort de cette question-là et qu'on regarde un petit peu ces phénomènes de bashing sur les réseaux sociaux, on se dit qu'il y a un exutoire à l'extrême violence que vit chacun dans sa vie quotidienne, qui prend des formes qui font de nos sociétés une sorte de brûlot de haine. Et effectivement,
vous vous rendez compte, attendez, Guillaume Dessouy,
il est nécessaire de parler d'autres choses.
Ce qu'apprend en pleine figure, c'est une banderole, tweeter et retweeter, diffuser sur les réseaux qui est où on voit l'inscription suivante: il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris, c'est pas le marché de Bamako.
Mais
c'est violent.
On fait de bonnes affaires au marché de Bamako. Hein.
Oui, on peut faire de bonnes affaires, mais c'est violent quand même. Franchement,
c'est de la folie haineuse. C'est de la folie haineuse. Et la folie haineuse, si elle s'exprime, c'est parce que.
Le problème, Adil, c'est l'anonymat sur les réseaux sociaux. Ça suffit. Il faut qu'on soit tous responsables de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Moi, j'ai pas de souci. Vous savez, il y a un homme, et ça a surpris des gens que je respecte énormément, c'est Serge Ayoub, alias Batskin. On me dit, mais comment tu peux respecter un facho comme ça? J'ai dit, ce type-là. Son discours est cohérent, que j'accepte ou que j'accepte pas, mais en tout cas, il l'assume jusqu'au bout et à visage découvert. Moi, mon ennemi, s'il a visage découvert, j'ai pas de problème avec lui. S'il est à visage couvert, et ça peut être même des amis des fois qui vous plantent dans le dos et souvent on est trahi par les siens, il faut arrêter avec l'anonymat sur les réseaux sociaux. Donc déjà, vous avez 90% des fous furieux là qui se lâchent, qui vont se calmer. Vous aurez 10% d'extrémistes et le débat est ouvert avec eux. Guillaume l'a bien résumé, c'est l'artiste française qui vend le plus en France et à l'international. Donc elle a toute sa place, elle a toute sa légitimité. La France évolue, la France elle est plurielle, elle est multiculturelle, multiconfessionnelle. Tout le monde a sa place, autant un Vianney que Aya Nakamura. Moi je suis pas un fan de ses chansons parce que mais ça va avec l'air du temps, ça va, il y a une jeunesse qui est fan et qui aime beaucoup, qui s'y retrouve. Donc par conséquent, faut aussi respecter cette jeunesse. Les Jeux Olympiques, c'est les Jeux Olympiques de tout le monde, c'est pas les Jeux Olympiques des
fachos ou des bourgeois ou des bobos. C'est aussi les Jeux Olympiques du peuple. Et le peuple, malheureusement, dans ces Jeux Olympiques, va souvent le regarder à la télé et pas sur les stades parce que malheureusement, les bourses ne suivent pas. Donc, si on peut représenter le peuple pareil à Kamoura, moi je dis bravo et tous mes voeux de réussite. Et qu'elle chante Piaf ou qu'elle chante aussi ses propres chansons parce que c'est aussi ça la France.
Ouais, ben je crois qu'elle va faire une reprise d'Edith Piaf, il me semble. Hein.
C'est ce que le président il veut. Ouais. Mais moi, c'est pas ce que le président veut. Moi, c'est ce que Aya, l'artiste, veut avant tout. Et ça serait bien qu'elle fasse les deux. Et Piaf et Pookie ou je sais pas quoi.
Moi, je suis sur la même ligne que Philippe, pour une fois.
Pour une fois, clochette. Oh là là, c'est magnifique.
Il se rapproche du centre.
Voilà, regardez, on parlait d'elle, justement, tout le monde parle d'elle. La guerre en Ukraine, justement, c'est monsieur Medvedev qui tacle Emmanuel Macron et lui recommande de prendre plusieurs paires de caleçons. Franchement, là, la politique, ça descend, bah, Guillaume de Souy. Hein. Vous rendez compte, là? Ça, il fait référence à son déplacement qui est prévu en Ukraine.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'on doit comprendre?
On doit comprendre que dans la surenchère des mots et de la propagande de guerre, chaque semaine, on enclenche un cliquet et que la situation est extrêmement grave. Et Monsieur Macron, qui commence la campagne européenne en clivant sur cette question de l'Ukraine, il fait une erreur de plus. De toute façon, l'erreur, elle est globale. La situation demande de changer la stratégie du tout au tout. Au lieu d'avoir un accord avec l'Ukraine et de lui mettre un doigt de pied dans l'OTAN, ce qui nous met dans une situation d'obligation d'intervention sur le terrain, quoi qu'on en dise, il faut sortir de l'OTAN. Mmh. Il est maintenant temps et plus que temps de tirer les conclusions de 25 ans d'échec. 15 ans depuis notre adhésion dans l'OTAN et des tensions qui vont de plus en plus loin. La Russie ne pourra comprendre une possibilité de paix que si l'OTAN se découd et que l'Ukraine devient neutre. C'est une réalité. Ceux qui disent qu'on va pouvoir faire une nouvelle ligne Maginot en Ukraine en dépensant des sommes folles, en créant des infrastructures qui font un front complètement anti-écologique, ils n'ont rien compris à 2023 et aux enjeux du 21e siècle. Les enjeux du 21e siècle, c'est la lutte contre le dérèglement climatique, c'est la coopération internationale. Ce que fait M. Macron, mettre de l'huile sur le feu, c'est totalement irresponsable. Il faut sortir de cette logique du tout au tout et j'espère que le débat de cet après-midi commencera à le dire.
Alors, moi, sur la déclaration
Medvedev, on parle bien de celui qui était ministre pantin de Poutine, qui l'a mis président parce qu'il ne pouvait pas se représenter et qui s'est représenté la fois suivante, donc il lui a laissé la place. Parce que c'est la première fois qu'il y a un type qui est élu président. La fois suivante, il ne se représente pas pour laisser à son prédécesseur, enfin à son maître, qui tenait la laisse d'ailleurs. Donc les déclarations de Medvedev ne sont pas à la hauteur, enfin si, sont à la hauteur d'un petit valet. Et donc il n'est que ce qu'il est. C'est irresponsable. Déjà, de dire, il faut qu'il change de caleçon parce qu'il va faire quoi? Il va se faire dessus. Parce qu'il va se faire dessus. Bah, j'invite Medvedev à nous montrer l'exemple et à aller sur la ligne de front et soutenir ses hommes et prendre les armes et aller en première ligne à la place de ses armes au lieu d'aller laisser ses enfants, les enfants de la Russie se faire massacrer. Ces gens-là, ils parlent, mais au moment d'agir, on les voit plus. Et malheureusement, c'est toujours les petits qui sont en première ligne et qui se font boxer. Je voudrais dire que Zelensky, il y a plein de présidents qui auraient fui leur pays au moment. Lui, il a dit, bon, on pense qu'on veut de lui. Il a dit, je reste dans mon pays. Si je dois mourir, c'est ici. Et citez-moi plusieurs chefs d'État qui sont restés lorsque leur pays se faisait envahir. J'en connais pas beaucoup. Donc on n'a pas trop de leçons à donner. Et moi, j'approuve la position du président de la République qui de dire on ne va pas laisser nos amis et nos frères ukrainiens se faire massacrer sans réagir. Après, effectivement, il faut arriver à une solution de paix. Mais quand vous avez un dictateur en face, la solution de paix, elle n'est pas énorme. Et Zelensky a répété hier, on ne demande pas aux enfants de la France ou de l'Europe de mourir pour nos enfants ukrainiens. On demande à ce que nous, on puisse se libérer. Donc donnez-nous les moyens de pouvoir combattre à armes égales avec les terroristes russes.
Il y a beaucoup de duplicité dans cette situation. Je le rappelais la semaine dernière dans mon coup de gueule. Il y a 15 000 milliards qui ont été dépensés dans les budgets militaires quand il a manqué 5 000 milliards pour la coopération internationale. Il y a une logique qui amène à une situation. Monsieur Poutine n'est pas plus fou qu'un autre et il ne décide pas tout seul, pas plus qu'un autre. La Russie est un grand pays avec énormément de conseillers et pour réussir à faire valoir une décision, même du chef de l'État, il faut des relais. Et si on rentre dans des négociations sérieuses sur un nouvel Helsinki, si on met réellement le secrétaire général de l'ONU au centre de l'affaire et qu'on met réellement des sommes monumentales dans la coopération internationale, l'ensemble des pays vont retrouver la raison et se conformer aux nouveaux engagements comme le traité d'interdiction des armes nucléaires qui a été voté en 2017 et qui est rentré en application depuis 2022 mais qui est boycotté par l'ensemble des États dotés. Il faut voir la complexité de la situation et réellement changer de braquet.
J'ai deux minutes. Franchement, je suis content parce que je voudrais qu'on parle de la déclaration de François-Xavier Mélanie. C'est que là, Emmanuel Macron, il prend des coups. Il prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de coups. Là, il y a une autre déclaration. Il dit carrément, il considère qu'Emmanuel Macron, le président de la République, n'a plus la main sur rien et a décidé de se réfugier sur les questions de société. Qu'est-ce qu'on peut dire
Je crois qu'il faut que je sorte de son conservatisme. Moi, jusqu'à présent, je l'ai épargné, François-Xavier Bellamy, parce que il est mignon, il est sympa, mais.
Il est mignon, j'aime bien.
Non, mais Clochette. Mignon, tu vois. Non, mais c'est vrai. Mais bon, je pense que les Républicains avaient d'autres atouts majeurs. Je pense à Vincent Jeanbrun, qui aurait fait un excellent député, une belle tête de liste. Je pense à Othmane Nasrou, et je vois qu'il s'entête et qu'il s'enferme dans des accords d'appareil en mettant quelqu'un d'ultra-conservateur à la tête de leur liste. Bon, c'est pin-ups. Quand hier on l'a entendu parler sur la fin de vie, le type il a même pas osé dire je suis contre. Bah assume, va jusqu'au bout. Moi j'aime bien les gens qui sont francs du collier. Oui je suis pour, non je suis contre. Et ouais, bah, on y va. Quand t'es là en train de dire timoré pour ne pas essayer, alors qu'il est complètement contre, mais que son parti est globalement pour. Enfin, il n'y a pas de cohérence. Je pense que les Républicains ont perdu la boussole. Mais ils ont des gens vraiment intéressants. Je vous le dis, à l'intérieur comme Vincent Jeanbrun, Othmane Nasrou.
Ouais, j'en pense pas beaucoup plus, hein. Monsieur Bellamy, il a effectivement un positionnement interne qui l'amène à avoir des déclarations d'opposition au chef de l'État, qui en même temps sont des oppositions timorées, c'est-à-dire que lui non plus, il va pas discuter avec. Les Républicains et le gouvernement sur d'autres sujets que les sujets de société, parce que lui non plus il n'est pas capable d'imaginer la situation en proposant autre chose que ce qu'impose le climat actuel, c'est-à-dire une sorte d'autoritarisme de la rigueur, une sorte d'autoritarisme de la verticalité du chef de l'État, et donc il sait pas quoi faire de sa position au sein des Républicains. Il n'en fait rien.
Guillaume Dessuy, humaniste, pacifiste, artiste.
Membre élu, du mouvement de la paix.
Membre du mouvement de la paix. Artiste aussi, également élu aussi sur la ville de Villejuif. Oui. Guillaume Dessuy, c'est vous.
Merci.
Au plaisir.
C'est pas vrai.
C'est pas mal. Hein,
c'est pas mal, ouais. Bonne présentation.
On a notre conseiller régional, personnalité engagée sur les questions de société, mais également aussi élu local. C'est Philippe Nadjiboyek.
Merci Azil, merci BFM, à très vite. Merci Guillaume.
Merci à Foudil et la réalisation. Les Foudil, programmes continuent. Avec Philippe Robichon dans AVS et puis ce soir et tous les programmes continuent. À demain avec autant de plaisir, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.